Bonjour, vous écoutez Historama, l'histoire d'un jour. Aujourd'hui, le 4 septembre 1870, la Troisième République est proclamée. Napoléon III est vaincu à Sedan le 2 septembre 1870. La dépêche de l'empereur est laconique. L'armée est défaite. N'ayant pu me faire tuer au milieu de mes soldats, j'ai dû me constituer prisonnier pour sauver l'armée. Il cède le commandement de l'armée impériale au maréchal Bazaine. Le lendemain, l'impératrice Eugénie reçoit la dépêche de Sedan de la main du ministre de l'Intérieur, Henri Chevreau. Déjà, la nouvelle court dans Paris, où l'insurrection couve. Quoi qu'il arrive, proclame l'impératrice, qui assume la régence, les soldats ne doivent en aucun cas tirer sur le peuple. Le 4 septembre, à 1h du matin, Jules Favre monte à la tribune du corps législatif pour exiger la déchéance de la famille impériale. À l'aube de ce beau dimanche estival, l'émeute secoue la capitale. À midi et demi, une délégation parlementaire demande à la régente de remettre le pouvoir exécutif à une commission de gouvernement. L'impératrice refuse en ces termes. L'avenir de notre dynastie ne compte plus pour moi. Je ne pense qu'à l'avenir de la France. Mon unique souci personnel est de remplir, dans toute leur étendue, les pouvoirs que mon rang et ma fonction m'imposent. Or, le plus clair de ces devoirs est de ne pas déserter mon poste. Quant aux représentants du pays, leur devoir me paraît aussi évident que le mien. Ils doivent ajourner leurs querelles de parti et se serrer autour de moi pour faire masse contre l'invasion. Ils tiennent le sort de la guerre entre leurs mains. Après plusieurs heures de discussion, elle semble infléchir sa position. Mais il est bien trop tard. La foule force les grilles de la place de la Concorde et se rue dans le jardin des Tuileries. Constantino Nigra, l'ambassadeur du royaume d'Italie, et son collègue autrichien, Richard Clemens von Metternich, accourent au palais impérial. Ils pressent l'impératrice de fuir. Elle se coiffe d'un chapeau, revêt un léger manteau et quitte les Tuileries, suivie des deux diplomates et de Madame Le Breton, sa fidèle lectrice. Les fugitifs traversent les longues galeries du musée du Louvre. Par la section des antiquités égyptiennes, ils parviennent place Saint-Germain-l'Auxerrois. Les deux femmes vêtues de noir montent dans un fiacre. L'impératrice se rend chez son dentiste américain, le docteur Thomas Evans, qui la persuade de partir pour l'Angleterre. Heureusement, Eugénie possède un lot de passeports remis par le préfet de police en vue d'un éventuel départ. Pendant ce temps, la République est proclamée à l'Hôtel de Ville. Un gouvernement provisoire est constitué avec pour principaux ministres Jules Favre, Léon Gambetta, Adolphe Crémieux, Ernest Picard et Jules Simon. Il prend la dénomination de gouvernement de la défense national, avec à sa tête le général Jules Trochu. L'impératrice est consternée. Elle éprouve un sentiment de profonde trahison. Trochu, non, non, c'est impossible. Comment a-t-il pu passer du côté révolutionnaire, et cela après les protestations solennelles qu'il m'avait faites de fidélité et de dévouement à ma personne? Je ne peux pas y croire. Comment a-t-il pu nous trahir ainsi? Pas plus tard qu'hier matin, il m'a encore affirmé spontanément sur son honneur de soldat, sur sa foi de catholique et de breton, qu'il ne m'abandonnerait jamais, que quiconque voudrait m'atteindre devrait d'abord passer sur son cadavre. Le 5 septembre, le soleil n'est pas encore levé quand le landau du docteur Evans quitte l'avenue Malakoff et franchit la grille de la porte Maillot. L'impératrice a quitté Paris. À Mantes s'effectue un changement d'équipage qui est renouvelé à Évreux. Là, les fugitifs croisent des gardes nationaux qui rentrent chez eux au cri de « Vive la France ! Vive la République !» et aux accents de la Marseillaise. Le 6 septembre, après une nuit passée à l'auberge de la rivière Thibouville, dans la vallée de la Risle, l'impératrice gagne Lisieux par le train. La gare est située à moins d'un kilomètre. C'est donc à pied qu'elle rejoint la station. Le chef de gare lui jette un regard de haine. Assurément, il l'a reconnue. Mais il ne dit rien. À Lisieux, la sortie de la gare s'effectue sans incident. Il pleut. Evans part à la recherche d'une voiture pour Deauville, où son épouse est en villégiature. Muni d'un parapluie, il parvient à faire entrer discrètement la souveraine dans l'hôtel du casino par une porte dérobée. Infatigable, il repart aussitôt pour Trouville. Il faut trouver un bateau. Sur le quai de la marine, il avise un yacht d'une quinzaine de mètres, la Gazelle. L'embarcation appartient à Sir John Burgoyne, citoyen britannique. Le dentiste lui révèle la vérité de son projet. D'abord hésitant, le propriétaire du bateau accepte finalement de prendre l'impératrice déchue à bord. C'est dans un état navrant, trempée, couverte de boue des pieds à la tête, après avoir trébuché dans des flaques d'eau et des tas de sable, qu'elle atteint le yacht à minuit. Elle est accueillie par un punch bien réconfortant, préparé par Lady Burgoyne. Le 7 septembre, peu avant 7 heures, la Gazelle lève l'ancre pour l'Angleterre. Eugénie entame son exil au château de Camden, à Chilhurst, où Napoléon III et son fils ne tardent pas à la rejoindre. Nous allons marquer une pause musicale avant la chronique littéraire Un jour, trois livres, qui a été préparée par Emmanuel et que j'aurai grand plaisir à vous présenter. C'est Frédéric Chopin qui nous accompagne en musique durant cette émission Historama. Nous écoutons le nocturne numéro 2 en mi bémol, opus 9. Vous écoutez Historama, l'histoire d'un jour, la chronique littéraire, un jour trois livres. Pour commencer, Savinien de Cyrano, sieur de Bergerac, c'est signé Gérard de Cortance aux éditions Albin Michel. Pour Savinien de Cyrano de Bergerac, dont Flaubert vanta le prodigieux talent poétique, Le monde est un bestiaire où le faux toujours la vérité ressemble. Poète, philosophe, auteur de pamphlets, de romans utopiques et de pièces de théâtre, mathématicien, athée, inventeur, libertin, bretteur, sanguinaire, il rêvera toute sa vie d'aller sur la Lune. Rejeté, meurtri, poursuivi sans relâche par la redoutable congrégation de l'Index, il mourra accidentellement à 36 ans. Nous le suivrons des ravages de la guerre de 30 ans au Paris de la Fronde, des querelles autour de la tragédie classique au débat scientifique de l'aube du XVIIe siècle, des duels meurtriers aux ruelles boueuses de la cour des miracles, le tout avec son nez, son fameux nez, une véritable péninsule. Savinien de Cyrano, sieur de Bergerac, c'est signé Gérard de Cortance et c'est publié aux éditions Albin Michel. Aucune nuit ne sera noire de Fatou Diom aux éditions Albin Michel. Voici un lien familial fort entre une femme et son grand-père. C'est pour nous une rencontre avec celui à qui Fatou Diom dédicace tous ses livres, son grand-père. Entre appel des souvenirs et invocation, ce récit nous livre à mots couverts le secret d'une relation authentique, forte et fondatrice. Aucune nuit ne sera noire, c'est signé Fatou Diom et c'est publié aux éditions Albin Michel. Et pour terminer cette chronique, La vie brève et les grands chemins de Karine Fernandez aux éditions Héloïse d'Ormesson. Voici un roman picaresque qui se situe essentiellement à la fin du XVIIIe siècle. L'aventurier castillan Leandro Urbina de Piedra Escrita parcourt une Europe bouleversée par la Révolution et l'Empire. En 1800, au retour d'un voyage en Orient, Leandro est interné au lazaret de Minorque. Ce noble castillan aurait pu maudire cet isolement forcé s'il n'avait rencontré la belle Zenobia. Quelle déconvenue lorsqu'il apprend que cette ancienne esclave syrienne est déjà promise à un autre. Qu'à cela tienne, nuit après nuit, Leandro se fait Scheherazade et pour repousser le jour qui vient, lui raconte sa vie. De sa quête des origines dans les Flandres à son amitié avec le sulfureux William Beckford, il lui dévoile son passé. Tout un monde extravagant de Madrid à Anvers, en passant par Paris, avec ses théâtres, ses cercles de jeux, ses cafés, où les idées fermentent avant les convulsions de la Révolution et de l'Empire. Le tout pour la conquérir et surtout pour nous conquérir. La vie brève et les grands chemins de Karine Fernandez s'est publié aux éditions Héloïse d'Ormesson. Nous allons nous quitter en musique avec toujours Frédéric Chopin après avoir remercié Thomas qui a réalisé cette émission. Nous écoutons un extrait du prélude numéro 4 en mi mineur, opus 28. Thank you.
Thank you.